message aujourd'hui. Désolé, mais on ne peut pas vous écouter. Je n'ai pas pu vous écouter parce que je fais du ski. Voilà, moi je suis en train de faire du ski et je n'ai pas le temps d'écouter les messages d'auditeurs français. Alors vous vous dites quoi, il est en train de faire du ski, mais il nous raconte qu'il est à Dubaï. Et Dubaï, c'est quoi donc? Eh ben Dubaï, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est le désert, c'est les chameaux, c'est la chaleur. Oui, eh bien on fait du ski quand même. Et pourquoi on fait du ski quand même? Parce qu'il y a ici, et c'est la grande attraction de Dubaï, une piste de ski, évidemment couverte, vous l'imaginez, de 400 mètres de long avec une piste noire, une piste rouge, une piste verte et des remontes-pentes, etc. C'est la grande attraction au milieu du plus grand mall du monde. Enfin, ici, tout est le plus grand du monde, le plus extraordinaire du monde, la croissance la plus formidable du monde, etc. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, depuis des années, il faut bien dire que contrairement à ce qu'on vous dit dans la base, si j'y suis, l'ultralibéralisme ne fait pas que des malheureux. Il y a aussi des gens qui en profitent grassement. Et depuis des années, nous nous demandons, mais que font-ils de tout ce pognon? Eh bien, on l'a trouvé, ils l'amènent à Dubaï. Ils investissent à Dubaï, ils construisent à Dubaï, ils ouvrent des affaires à Dubaï et ils consomment comme des fous à Dubaï. Voilà pourquoi nous sommes ici. Évidemment, on s'en doute, il y a quelques ombres au tableau. Ainsi, il y a quelques instants, alors que avant d'aller skier, nous avons rencontré une ouvrière venue des Philippines et qui nous a raconté vraiment, mais on vous fera entendre son témoignage qui est particulièrement bouleversant. Elle n'est pas la seule, on a rencontré beaucoup de travailleurs qui souffrent beaucoup, beaucoup de conditions absolument ignobles qui leur sont faites, mais elle est une des rares à lutter. Voilà. Ça, ce sera quand nous reviendrons. Aujourd'hui, on continue avec les années noires, les années de plomb en Italie. Et aujourd'hui, c'est un dossier particulier sur lequel nous avions beaucoup travaillé dans cette série, sur l'attentat de la Piazza Fontana. J'espère que les indications, les documents et l'enquête vous apporteront quelques lumières sur ces pages sombres de plomb et noires de nos voisins italiens.
Ecco, guarda, noi siamo un gruppo di operai che stiamo cercando di organizzarci, no? E vedere di venire giù anche noi, perché vogliamo venire a disfare le ossa, perché ci avete già rotto le palle, testa di cazzo che non siete altro, smettetela, porci, e vergognatevi, merde!
Se tu invece di essere a casa fossi qua, sapresti
cosa succedendo? Ma cosa voglio fare che vi ho visto all'opera?
Cosa sta succedendo? C'è la gente con i manifestanti, la polizia
che è andata a fare, la fanculo, pezzo di merda, presunto, bombo! Stronzo!
Qui è Radio Alice.
Era il manifesto cannibale di Dada e i dadaisti che si accapigliano in scena lanciando bistecche crude e uova marce verso il pubblico.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Francesco Giorgini, l'Italie, les années noires, les années rouges.
Une décennie furieuse de l'italisme, ce sont les années 70, des années imperdonnables pour l'Italie.
Impardonnable.
Impardonnable. Et impardonné.
Qui est Radio Alice?
Tutti i compagni, giù in piazza, questa è guerriglia, porco Dio, porco Dio.
Qui è Radio Alice?
Dada avanza distruggendo progressivamente.
Qui è Radio Alice?
Sulla strada della morte di Dada, della distensione surrealista.
Qui è Radio Alice?
Sì, in italiano, on dit les années de plombo. On dit d'une guerre civile. C'était une guerre civile d'un type spéciale.
Perché sono volate molte palle di piombo.
Parce qu'il y avait beaucoup de balles en plomb qui passaient dans l'air.
E poi di piombo per dire che l'atmosfera era di piombo, cioè il grigio piombo.
E un altro côté pour dire che l'atmosfera était gris comme le plomb.
Est-ce que vous les appelez les années de plomb, vous aussi?
Oui, aussi. Pas seulement, mais en tout cas, oui.
Noi abbiamo un aggettivo in italiano, che è plumbeo, che significa grigio pesante come il piombo.
On a un aggettivo in italiano qui n'existe pas en français, qui est plumbeo, qui veut dire de la couleur grise lourde du plomb.
parce que il y a eu beaucoup d'armes, de pistolets, de bombes, alors on les appelait pousse-moutille surtout parce qu'il y avait beaucoup de morts et d'attentats.
Oh, non, li chiamo gli anni di piombo.
Moi, je les appelle pas les années de plomb et je suis très dérangé. Un gêne très fort quand ils sont appelés comme ça.
Mi piacerebbe chiamarli gli anni della grande rivolta in Italia.
J'aimerais les appeler les années de la grande révolte en Italie.
Qui è Radio Luce.
Voilà, ça c'est la Piazza Fontana, c'est là que tout a commencé, il y a 35 ans. Les années de plomb commencent là. Et ici à Milan, autour, là on voit le Duomo, là au-dessus, il fait très beau ce soir, un ciel très doux avec des oiseaux qui piaillent et qui se baladent dans le ciel, une station de tramway. Et puis là, un bâtiment assez austère, pas très sympathique, qui est la Banque Nationale de l'Agriculture. Et là, sur le mur, il y a une plaque qui rappelle ce qui s'est passé donc ce 12 décembre 1969 à la mémoire du sacrifice, et il y a 17 noms.
Donc, ouais, 12 décembre 1969 à les 16h28 circa.
Le 12 décembre 1969 à 16h30 à peu près, 16h28.
In questa banca,
dans cette banque,
è scoppiata una bomba.
Una bomba esplosa.
Che ha fatto questi 17 morti e 84 feriti.
Che ha tué 17 persone e blessé 84 persone.
In un primo momento sembrava, non sembrava neanche che fosse scoppiata una bomba, bensì che fosse scoppiata una caldaia all'interno della banca.
Dans un premier temps, on n'a même pas compris che si s'agisse d'une bombe, on a pensé à un chaudière all'interno della banca.
Prese subito una pista precisa, prese subito la pista anarchica.
Juste quelques heures après cet attentat, la police a tout de suite pris parti pour l'hypothèse d'un attentat anarchiste.
C'est l'État qui met les bombes. C'est l'État qui met les bombes. Ça fait slogan gauchiste, anarchiste, extrémiste comme slogan. Oh, c'était la vérité. Oh, ils avaient raison. C'était bel et bien ça. Avant d'être rouge, la terreur fut noire dans l'Italie des années 70, celle que nous parcourons, celle qui nous intéresse, celle de ce mai 68 qui a duré 10 ans. Il y eut d'abord ce qu'on a appelé un terrorisme d'État. Des bombes dans des trains, des banques, des meetings syndicaux. Il y eut des morts par centaines. Le noir a tué plus que le rouge dans la violente Italie de ce temps-là. Des groupuscules d'extrême droite et des branches des services secrets installent la terreur, la stratégie de la tension. Il s'agit de déstabiliser pour stabiliser, c'est-à-dire installer une psychose de chaos afin que l'opinion accueille favorablement le retour d'un pouvoir fort. On connaît ces méthodes, on les a vues chez nous sous des formes plus édulcorées, mais c'est toujours les mêmes stratégies. Et puis, à l'époque, on avait peur du fascisme. C'était pas une formule, c'était pas quelque chose de symbolique. On l'a évoqué hier avec Eri De Luca. À l'époque, fin des années 60, le Portugal, fasciste, Espagne, fasciste, Grèce aussi. Donc, l'Italie se sent dans cet axe-là. Et le mot axe a un sens bien particulier pour les Italiens. Et puis, le fascisme qui a duré plus de 20 ans. En Italie, eh bien, a laissé des traces dans la mesure où il n'y a pas eu d'épuration complète de ces années noires du fascisme. Dans la police, dans l'armée, dans les services secrets, beaucoup ont été maintenus dans leur poste. Alors nous voilà donc devant cette fontaine de la Piazza Fontana à Milan avec Francesco Giorgini. Je vais dire une chose sur Francesco, c'est que Francesco, il a 35 ans, c'est une époque qu'il n'a pas connue, et il appartient plutôt à la génération jeune, de gêne, hein. En Italie, ça nous dit quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que reste-t-il de cette histoire, cette vieille histoire des années 70 en Italie. Qu'est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut jeter? Visiblement, l'Italie ne veut rien jeter. C'est une histoire qui ne passe pas, qui reste en travers de la gorge de ce pays. Alors, effectivement, tout a commencé ici, ce 2 décembre 1969, sur cette Piazza Fontana. Bien sûr que rien ne commence un seul jour comme ça. Il y a un passé, il y a des raisons, il y a des causes. On essaiera d'en éclairer quelques-unes. Et là, on est avec Paolo Barbieri, qui est un journaliste renommé de l'ANSA, c'est-à-dire l'Agence Nationale de Presse Italienne. Voilà 20 ans que Paolo fait dans la chronique judiciaire, c'est-à-dire qu'il a suivi cette histoire. Mais alors, jour après jour, procès, renvoi, cassation, en suivant ça de très très près. Et puis, la raison de son implication dans cette histoire du terrorisme noir, c'est que lui-même, dans sa jeunesse, fut témoin d'un autre massacre, celui de Brescia, du 28 mai 1974, à l'époque où il était étudiant. Alors, moi aussi, j'ai de la bouteille un peu, je commence à avoir pas mal d'heures de vol, et je me souviens d'une pièce jouée à Paris dans les années 70 qui s'appelait « Mort accidentelle d'un anarchiste » de Dario Fo, de l'immense et du grand Dario Fo, que nous avions eu la chance de rencontrer avec Francesco lors de notre dernier voyage à Milan. Et l'anarchiste en question, c'était un certain Giuseppe Pinelli. Et face à la plaque que nous venons de contempler sur le mur de ce bâtiment austère de la Banque de l'Agriculture sur la Piazza Fontana, juste en face, dans un petit square, il y a une plaque, un panneau à la mémoire de Giuseppe Pinelli. Pourquoi Paolo Barbieri?
Giuseppe Pinelli viene tenuto in questura e interrogato per 3 giorni consecutivi.
Giuseppe Pinelli a été gardé à la préfecture de police, au commando de police, et interrogé pendant 3 jours d'affilée.
La sua morte è ancora un mistero, perché Pinelli il terzo giorno precipitò dalla finestra del quarto piano e morì.
Sa mort, après 3 jours d'interrogatoire, donc Pinelli meurt, et il meurt en tombant de la fenêtre du bureau du commissaire Calabresi au 4e étage du commandement de police de Milan. Et sa mort reste encore un mystère. Il reste le fait que dans les mêmes heures, à peu près dans les mêmes heures, la police travaillait déjà pour détourner l'enquête.
Spiegare meglio, proprio il giudice D'Ambrosio, che per quella sentenza venne accusato pesantemente.
Ma pour témoigner une fois de plus de la bonne foi du juge D'Ambrosio, il faut savoir que c'est grâce au juge D'Ambrosio qui l'enquête a changé de direction
rotta,
et qu'on a plus recherché les anarchistes, qu'on a effacé de l'accusation des anarchistes à la piste par contre des fascistes qui s'est révélée être la plus probable.
Le 12 décembre 69, il y a le massacre de la Piazza Fontana à Milan, dans le clou de la lutte ouvrière, l'autunno caldo de Tom Shaw, d'une formidable lutte ouvrière, une vraie saison de l'enthousiasme et de la lumière, dont nous étions des interprètes très militants et très enthousiastes. Et il y a beaucoup de victimes innocentes entre les gens qui fréquentaient cette banque. Et le tentative de la part de l'État, de la police, des carabiniers de rendre coupable de ces massacres horribles l'extrême gauche et en particulier les anarchistes.
Une vraie saison de l'enthousiasme et de la lumière, celui qui parle. C'est le prisonnier le plus encombrant, le plus gênant pour l'Italie, pour cette mémoire et pour la justice italienne, c'est Adriano Sofri. Adriano Sofri, on l'a revu à nouveau dans sa prison à Pise, et on lui a demandé d'évoquer ces années de plomb. et on va le retrouver au cours de ces de cette série de reportages. Adriano Sofri, qui a été le leader, disons, la figure dominante d'un des mouvements les plus célèbres de l'époque, l'Ota Continua, a été dénoncé par un repenti comme instigateur de l'assassinat du commissaire Calabrese en 1972. Accusation bien fragile, bien mince, condamnation énorme. Adriano Sofri et tout comme deux autres, Bonpressi et Pietro Stefani, ont été condamnés à 22 ans de prison sur un dossier extrêmement mince. Et on voudrait bien que Sofri sorte, on voudrait bien que Sofri se taise. Mais du fond de sa cellule, Sofri regarde de l'Italie dans les yeux et évoque cette époque d'enthousiasme et de lumière.
Cet attentat a donné une espèce de réveil, de choc, qui signifiait: vous avez un ennemi qui est prêt à tuer des innocents. La lutte que vous menez devient tout d'un coup responsable d'un ennemi qui réagit avec un massacre d'innocents. Votre ennemi n'est pas simplement les fascistes, l'extrême droite, etc., mais l'État. Ses apparats, ses hommes, ses dirigeants, sa propagande, etc. Et cet ennemi est prêt à inculper des innocents, des victimes innocentes que lui-même a fait. Ce choc-là signifie une espèce de passage traumatique pour les gens d'une époque à l'autre. Comme s'il y avait les ténèbres qui arrivent au lieu où jusqu'à un moment avant il y avait la lumière plus pleine, plus souriante, plus promettante, etc. Et nous avons nommé ça comme la perte de l'innocence de cette génération, de ces mouvements. La perte de l'innocence devant la férocité de l'ennemi. La décision qu'à partir de ce moment-là, tu ne pouvais pas poursuivre tes idées, mais tu devais réagir aux gestes et à la cruauté de cet ennemi-là. Que tu dépendais, pour ainsi dire, de cet ennemi. Pas lui de toi.
Piazza di Spagna, splendida giornata, traffico fermo, la città ingorgata, e quanta gente, quanta che ce n'era, cartelli in alto, tutti si gridava, e no alla scuola dei padroni, e via il governo di missionine. E mi guardavi tu con occhi stanchi, mentre eravamo ancora lì davanti, ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, c'erano cose certo più importanti, e no alla scuola dei padroni, e via il governo di missionine. 11:15 avanti architettura, non c'era ancor ragione di aver paura, ed eravamo veramente in tanti, e i poliziotti in faccia agli studenti, e no la scuola dei padroni, e via il governo di missioni. Hanno impugnato i manganelli ed han picchiato come fanno sempre loro, e all'improvviso è poi successo un fatto nuovo, un fatto nuovo, un fatto nuovo. Non siamo scappati più, non siamo scappati più. Il primo marzo, sì, me lo rammento, saremmo stati 1500, e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via, e no la scuola dei padroni, e via il governo di missioni.
e mi guardavi tu con occhi stanchi, ma c'erano cose certo più importanti, ma qui che fai a vattene un po' via, non vedi arriva giù la polizia, e no la scuola dei padroni, e non mettiamo condizioni, no!
Chanson qui date de 1968 en Italie, à Rome, et qui évoque les luttes entre les étudiants de l'école d'architecture et la police et les étudiants qui disent non, cette fois-ci on se barre plus comme des lapins, on lutte, on fait face. Et il faut, on va essayer de se remettre dans l'histoire, dans le contexte, avec Giorgio Galli, qui est un politologue, qui est l'auteur d'un livre qui a beaucoup de succès actuellement en Italie, qui s'appelle Plombio Rosso, plomb rouge, et qui retrace un peu le climat de l'époque.
Teniamo presente però che in Italia c'era un movimento di protesta sociale molto forte e molto diffuso.
Il faut toujours tenir présent che in Italia le mouvement de protestation et le mouvement social était très très fort et très diffus.
Era cominciato nelle università,
Come
anche il maggio francese.
Come mai 68 in Francia.
Però diversamente che in Francia è durato a lungo, si è esteso alle fabbriche, è stata una...
Mais à la différence de la France, ce mouvement a gagné les usines, est devenu une vague qui ne s'est pas épuisée en quelques mois, mais qui a duré des années.
Da qui è l'idea che di fronte al rischio di questa forte spinta a sinistra.
Et donc l'hypothèse qui a été émise, c'était que face à cette poussée progressiste, cette poussée des conquêtes sociales, cette poussée de gauche, la réponse des classes dirigeantes pouvait être un coup d'État. Et c'était le sentiment qui était diffus dans une partie de gauche du Parti communiste et aussi notamment dans la nouvelle gauche extra-parlementaire qui venait de surgir. Et moi, je continue à être convaincu que c'était un risque plutôt infondé, mais dans le climat de l'époque, c'était... On pouvait comprendre qu'on puisse arriver à prendre un coup d'État.
Alors le climat de l'époque, évidemment, c'est la guerre froide. Il faut pas oublier que disait Ray De Luca, hein, le monde ressemblait à une pièce de monnaie et chacun était d'un côté de la pièce de monnaie et essayait de se battre avec l'autre. Alors qu'aujourd'hui, disait-il, le monde est comme est une boule avec un seul maître. Alors qu'à l'époque, il y avait le monde bipolaire. Ce qu'était cette époque, un autre éclairage par un autre spécialiste éminent, qui est Giuseppe Dell'Utri, qui est professeur de sociologie à l'université de Rome et qui est un expert de cette période, notamment expert auprès des tribunaux. Giuseppe Dell'Utris.
In tutto il trentennio dalla fine della guerra fino a 70 e oltre, l'Italia non ha colpito la mafia, ma questo non è una responsabilità unicamente delle forze di polizia italiane.
Una delle conseguenze della fine della guerra e una delle conseguenze del début della guerra froide, c'è per esempio che la mafia ha été quelque part sauvegardée sur ordre des Américains. On s'est pris à chercher que les petits mafieux, parce que la coupole mafieuse, la hiérarchie mafieuse avait d'un part aidé les Américains dans le débarquement en Sicile, mais surtout se configurer tout de suite comme un instrument à utiliser en fonction anticommuniste.
L'Italie de l'après-guerre est un pays très pauvre, avec un parti communiste puissant, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas eu de défascistisation réelle du pays.
Infatti, soprattutto ai vertici del Ministero degli Interni,
tout à fait, d'ailleurs, notamment au ministère de l'Intérieur, très rapidement après la fin de la guerre, on rappelle des anciens fonctionnaires qui étaient au ministère de l'Intérieur sous le fascisme, et notamment des officiers, des agents de l'OVRA, l'OVRA étant la police politique secrète de Mussolini, et notamment ces officiers, ces fonctionnaires sont placés dans des places très sensibles, notamment à l'intérieur du ministère de l'Intérieur,
comme l'ufficio affari riservati,
à ce qu'on appelle le bureau des affaires réservées, qui jouera un rôle très important
dans la manipulation des enquêtes sur Piazza Fontana.
Voilà, contre des éléments pour comprendre, pour essayer de comprendre contre quoi, comme le disait Adrien Soffri, contre quoi étudiants, ouvriers, paysans, bref, tout le mouvement de la fin des années 60 va lutter et luttera au cours des années 70. Soyons clairs, il ne s'agit absolument pas dans notre esprit, dans le mien en tout cas, d'angéliser évidemment le terrorisme rouge, mais essayer de replacer les choses dans leur contexte historique. Alors revenons à la Piazza Fontana, l'attentat du 2 décembre 1969, et on va voir que, bien sûr, aujourd'hui, une grande partie de la presse italienne est sous les ordres, peut-on dire, sous le contrôle de Berlusconi, mais déjà à l'époque, une bonne partie de la presse italienne était du côté de ce qu'on peut appeler le Manche.
Nei giorni successivi il Ministero dell'Interno e la Questura di...
Allora, la réaction immédiate de la préfecture et de la magistrature de Milan, c'est de crier au monstre en indiquant comme l'exécuteur l'anarchiste Valpreda. Et c'est, il y a un battage médiatique sur cet homme qui est donc indiqué comme le monstre absolu et évidemment à partir des journaux de droite, mais aussi un quotidien très prestigieux comme le Corriere della Sera qui se lancera à corps perdu dans la culpabilisation de Valpreda. Mais l'extrême gauche sortira un petit bouquin qui se vendra à dizaines de milliers de copies, tout en étant une édition très militante, qui s'appelle Le massacre d'État, et qui déjà indique en gros, à grande ligne, quelle est la piste réelle pour retrouver les exécuteurs et les mandataires de ce massacre, et qui indique donc comme la piste à suivre la piste du terrorisme fasciste et de l'implication vraisemblable d'une partie des appareils d'État.
Comment réagit le public? Est-ce que le public comprend?
Si,
le public avait déjà compris que c'était difficile à croire qu'un danseur, Valpreda était aussi un danseur, avec quatre autres jeunes gens anarchistes, ait pu organiser cette série de quatre attentats au même jour, au même moment, et donc avec une logistique finalement assez fine.
Quand est-ce qu'on connaîtra la vérité sur cet attentat?
Ormai dopo le indagini del giudice Salvini avvenute tra il 1990 e il 1996.
Après les enquêtes du juge Salvini entre 90 et 96, le cadre est assez clair.
Guido Salvini, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Si, io come giudice istruttore ho condotto indagini nel campo del terrorismo di estrema destra e di estrema sinistra a Milano negli anni 80 e 90.
Moi, en tant que juge d'instruction, je conduis des enquêtes sur le terrorisme aussi bien rouge que noir dans les années 80 et 90.
A Milano, e quindi la città dove sono avvenuti alcuni tra i fatti più gravi del terrorismo che ha insanguinato il nostro paese.
Qui est la ville où sont passés certains des événements les plus graves du terrorisme qui a ensanglanté notre pays.
Alors, Guido Salvini, c'est une des figures les plus importantes, éminentes dans cette affaire de la Piazza Fontana, tout comme dans ces années 70, des années noires et rouges de l'Italie. Et il a enquêté notamment et porté des jugements sur, puisqu'il était juge d'instruction, il est juge d'instruction, sur l'attentat de Piazza Fontana. Le plus grave, c'est sans doute l'attentat de la Piazza Fontana à la Banque de l'Agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, 35 ans après, est-ce qu'on sait qui sont les auteurs de cet attentat?
Possiamo dire sicuramente quale organizzazione ha commesso la strage di Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre 1969. Et qui a coperto questa organizzazione?
On peut dire sûrement quelle organisation terroriste a accompli le massacre du 12 décembre 1969 dans la Piazza Fontana de Milan, et on peut dire qui a couvert les agissements de cette organisation.
Questa organizzazione era l'organizzazione di stampo neonazista Ordine Nuovo, è un'organizzazione dedita ad attentati dinamitardi.
Cette organisation, c'était une organisation de matrice néo-nazie, et c'était une organisation donc d'éléments d'extrême droite, et qui avait utilisé, qui était organisée en cellule, et qui avait utilisé comme modèle le modèle de l'OAS, de l'Organisation Armée Secrète des militaires français en Algérie.
È iniziata quindi una serie di stragi, di attentati che hanno colpito semplici cittadini che si trovavano in banche, convogli ferroviari, stazioni.
Donc ils avaient entrepris une campagne d'attentat qui visait les simples citoyens, aussi bien dans les banques que dans des places, que sur les trains, que pendant des meetings syndicaux. Et donc des massacres qui visaient tout le monde d'une façon indiscriminée et qui ont continué à partir de 1969, donc ce premier massacre de la Piazza Fontana, jusqu'à la moitié des années 70.
La finalità di questi attentati era di creare un clima di paura e di rendere accettabile e possibile un eventuale intervento dei militari o una restrizione delle libertà politiche.
L'obiettivo di questa campagna d'attentat era di creare la terreur e la peur e di donc de rendre più facile e più acceptable aux yeux de l'opinion publique l'arrivée au pouvoir ou un coup d'état militaire ou en tout cas une restriction très forte des libertés personnelles. Et c'est dans ce cadre que la première indication qui est donnée par les forces de police sur les auteurs de l'attentat de la Piazza Fontana, c'est la piste anarchiste. Évidemment, une piste qui se révélera bientôt tout de suite infondée.
Bene, dobbiamo ricordare che a quell'epoca la magistratura non conduceva le indagini in prima persona, ma le indagini venivano indirizzate dalle forze di polizia che in quella fase.
À l'époque, il faut se souvenir que c'était pas le juge d'instruction qui conduisait les enquêtes, mais bien la police. Et la police, à cette époque, avait eu des consignes implicites ou explicites de la part du gouvernement pour adresser, pour diriger l'enquête vers les milieux anarchistes et non vers les milieux qui se révéleront être effectivement la source de l'attentat, c'est-à-dire Ordine Nuovo, donc l'organisation néo-nazie.
Alors, enquête sur ce qui a été à la base des années noires en Italie, c'est-à-dire, enfin des années de plomb en Italie, c'est-à-dire l'attentat de Piazza Fontana. Si on écoute le juge Salvini, Guido Salvini, c'est l'extrême droite, hein, c'est l'extrême droite, pas seulement l'extrême droite, il y a des connivences avec une partie de l'État, et certains avancent l'idée d'une une connivence également avec les services américains, l'OTAN et un service secret, enfin une organisation secrète dont nous reparlerons, qui s'appelle Gladio. Qu'en pense Bocca? Bocca, Giorgio Bocca, c'est sans doute le plus prestigieux journaliste italien vivant. Il est âgé, il a 80 ans, c'est un ancien résistant, un héros de l'époque des partisans, et son avis est très important pour l'Italie. Il a beaucoup écrit sur cette période et sur notamment sur les Brigades Rouges. Pour lui, les terroristes furent manipulés, les attentats d'extrême droite n'étaient pas une affaire de restauration du fascisme, mais une manipulation de la CIA, ce qu'hier Eri De Luca appelait la Casa Madre.
Derrière la Brigade Rouge, il y avait une pression politique. C'était la nostalgie, c'était de l'utopie, mais c'était un univers politique. De côté des attentats fascistes, c'était des mercenaires, c'était des provocateurs. On n'avait pas la sensation qu'il y avait une tentative de restauration du fascisme. On comprenait très bien qu'ils étaient payés par la CIA.
Qu'ils étaient payés par la CIA?
Oui, par la CIA et par le gouvernement italien. Parce qu'on ne trouvait jamais le gouvernement italien lorsqu'il y a eu l'attentat à la banque de l'agriculture ici à Milan. Les autorités ont nascosto les preuves.
Ont caché les preuves.
Ils ont conditionné la politique, certainement. Si venait un régime communiste, non le permettait.
Les Américains, ils ont conditionné la politique italienne de toute l'après-guerre et ils étaient prêts, si un régime communiste devait apparaître, à l'arrêter avec les armes.
Mais pour autant, Guido Salvini, est-ce que on peut dire qu'il y a eu une implication de l'État.
Infatti, gli autori materiali di queste stragi e di Piazza Fontana in particolare sono stati per anni.
Effectivement, ces gens qui sont été les auteurs matériels de la du massacre de Piazza Fontana ont été pendant des années couverts et protégés par des morceaux importants de l'appareil d'État et notamment de l'appareil de sécurité et de renseignement de l'État. Et je vais vous expliquer comment.
Quando accade questo, alcuni dei personaggi centrali del gruppo neonazista che ha coinvolto negli attentati.
E quand donc les magistrats ont commencé à chercher sur la piste néofasciste, certains des personnages qui ont été les plus impliqués, les plus concernés et donc les plus soupçonnés d'être les auteurs matériels de ce massacre de la Piazza Fontana ont été couverts, ont été protégés par les services de renseignement et de sûreté de l'État qui leur ont fourni les instruments pour pouvoir réparer en Espagne où à l'époque il y avait la dictature de Franco et donc où ils étaient effectivement intouchables.
Allo stesso modo, sin dei primi giorni dopo la strage,
dans le même cadre, beaucoup de corps de délit ont été soustraits, ont été cachés par la police, notamment par exemple les résidus de l'explosif, notamment les résidus de la valise qui avait contenu l'explosif, qui donc avait fait la bombe. Le fait de cacher ces preuves matériel a servi beaucoup à ralentir les enquêtes et notamment à ne rendre pas possible la confrontation avec d'autres épisodes et donc la recherche de la vérité.
Voilà la conviction de Guido Salvini, du juge Guido Salvini. Qui étaient les penseurs de la stratégie de l'attention? Vous avez compris que c'est des points de vue différents que nous avons rapprochés les uns des autres. Voilà celui du sociologue et spécialiste et conseiller auprès des tribunaux, Giuseppe De Lutis.
Ah, io ritengo che sia un'iniziativa presa oltre Atlantico.
Ma conviction très forte est que tout en étant les autorités italiennes ou une partie des autorités italiennes, notamment le ministère de l'Intérieur et de la Défense de l'époque, à connaissance des faits, la stratégie d'attention n'est pas pensée en Italie, n'est pas pensée par les Italiens, est pensée de l'autre côté de l'Atlantique.
Les ultime indicazioni del giudice Salvini,
en effet, les conclusions du giudice Salvini, qui donc a enquêté entre 91 et 96, arrive à dire qu'il y a l'intervention d'un service secret militaire lié au Pentagone.
Pendant ces années de stratégie de la tension, il y a un climat épouvantable en Italie, il y a un climat de peur, de terreur.
Era la speranza degli strateghi della tensione.
C'était en tout cas l'objectif et l'espoir de ceux qui avaient pensé et appliqué la stratégie de la tension. Et l'effet est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de manifestations populaires très massives contre les bombes. Il y aura de plus en plus, à chaque fois qu'il y aura des funérailles suite aux bombes, ces funérailles se transformeront en manifestations océaniques où on siffle l'État, où on siffle les représentants de l'État.
E quindi c'è una forte rabbia che
e dans les urnes surtout ça se concrétisera pour une augmentation nette et constante des voix de gauche, en particulier pour les partis communistes, mais en général du bloc de gauche.
Voilà, la stratégie de la tension finalement a été un échec par rapport au but poursuivi, mais c'est quand même ce qui a fondé ces années, ce qui a fondé cette l'activité de l'extrémisme de gauche en Italie. Alors on revient à la Fontaine, Piazza Fontana, devant cette banque, avec le journaliste Paolo Barbieri, pour essayer de conclure, de commencer à conclure un peu cette histoire.
Bisogna capire se volevano déstabiliser ou stabiliser.
Il faut comprendre si vous voulez déstabiliser ou stabiliser.
Certo è che dopo quegli attentati, dopo quel sangue, dopo quella violenza.
Je crois quand même que après tous ces sangs, après tous ces morts et après tous ces attentats, le peuple italien a quand même réussi à répondre. Il y a eu des manifestations massives.
Stratégie de la tension, que chiaramente cosa facevano? Metti la bomba.
Et donc ça n'a pas effrayé les Italiens, et la tentative donc de mettre des bombes qui tuaient des inconnus et qui donc devaient répandre la terreur n'a pas visiblement fonctionné.
Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que le but, il était de répandre la terreur et de faire appel à un pouvoir fort. L'opinion n'a pas marché, l'Italie n'a pas marché, ne s'est pas laissé terroriser.
La strategia della tensione in sostanza è fallita, anche se l'Italia ha poi dovuto attraversare.
Effectivement, les Italiens ne sont pas fait terroriser, l'Italie ne s'est pas fait terroriser, mais elle a quand même dû supporter quelques années terribles.
Piazza Fontana, che era il 69, arriviamo negli anni 70.
Parce qu'après le massacre di Piazza Fontana, ça s'est pas arrêté là, il y a eu différents massacres dans les années 70, notamment par exemple celui de Brescia, de lequel j'étais témoin, parce que j'étais sur la place de Brescia quand la bombe a explosé.
28 maggio 1970.
28 mai 1974.
Combien de victimes à Brescia?
8 morti e 100 feriti.
8 morts et 100 blessés.
Io quella mattina ero in manifestazione, ovviamente, perché ero uno studente.
C'était donc le jour de cette manifestation organisée par les syndicats, les étudiants, contre les bombes. Et donc moi j'étais un étudiant au lycée et j'ai participé à la manifestation.
Cioè, io credo che quella bomba, a differenza della bomba in Piazza Fontana, che è stata messa.
La différence de la bombe ici à Piazza Fontana, qui pouvait tuer n'importe qui d'une façon indiscriminée, la bomba a Brescia, je crois qu'elle était différente.
È stata messa in una piazza dove c'erano i sindacati, i partiti di sinistra. È stata messa contro quelli che loro contro i nemici.
C'était un bombe qui là était ciblée parce que c'était sur une place où on savait qu'il y avait une manifestation syndicale étudiantine. Donc c'était un bombe contre ce que les gens qui ont mis cette bombe considéraient leurs ennemis.
Les auteurs ont été arrêtés. Ou ça a fait pareil avec une...
Non vorrei rifare la storia perché è come quella di Piazza Fontana.
Je voudrais pas recommencer l'histoire parce que c'est presque comme l'histoire de la Piazza Fontana.
C'est la même histoire.
C'est la même histoire.
Ça n'en finit pas, ça pourrit depuis 30 ans.
Anche lì, carta carbone come piazza.
C'est la copie conforme, la suite est la copie conforme de l'histoire de Piazza Fontana. Donc un premier procès avec condamnation à perpétuité et ensuite après de acquittement, renvoi, nullité des procès, etc., etc., etc.
Voilà, acquittement, procès, renvoi, insuffisance de preuves. On voit que, bien sûr, un bon patriote italien, un bon citoyen a confiance dans la justice de son pays, mais avec quand même quelques arrière-pensées pour ce qui concerne la justice de cette époque-là. Pour Giuseppe de Lutis, on est loin d'avoir fait toute la lumière et toute la justice sur ces années-là.
Personne n'a été condamné pour l'attentat de Piazza Fontana.
Quelle trois personnes qui adesso sono state assolte.
Pour l'instant, personne n'a été condamné. Tout le monde,
tous ceux qui ont été accusés, ont été ont été acquittés. Alors, on peut imaginer qu'il y aura d'autres procès, mais les présumés coupables sont il est réfugié au Japon où il est milliardaire. Un autre, c'est un monsieur qui a plus de 80 ans avec une maladie au cœur. Donc, on imagine mal subir un autre procès et rentrer en prison. Et le terzo?
E il terzo probabilmente verrà assolto perché quello sul quale ci sono prove ancora meno.
E il troisième c'est celui sur lequel on a le moins de preuves. Et donc même s'il y aura un autre procès, vraisemblablement on verra pas ces gens aller en prison. Et donc pour le moment, en tout cas pour le moment et probablement pour le futur, on n'aura pas de coupable pour le massacre de Piazza Fontana.
Scandalo vero fu alla fine degli anni 70.
Le vrai scandale c'est que à la fin des années 70, donc on va dire à un moment où encore l'enquête était vivante quelque part, les inculpés ont été jugés une première fois coupables, ils ont pris perpétuité. En appel, une deuxième fois, ont été jugés coupables, ils ont repris perpétuité, mais un recours en cassation a fait que la cassation qui a jugé était la cassation de la cour de Bari dans le sud de l'Italie, et cette cour a annulé les deux précédents jugements, et là, même le ministre de l'époque démocrate chrétien a dit c'est quand même un scandale.
Guido Salvini, aujourd'hui tout le monde est acquitté.
Addirittura la sentenze che sono state pronunziate dopo queste nuove indagini hanno dichiarato che erano colpevoli elementi neonazisti.
Dans la sentence de la dernière sentence, il est écrit ceux qui avaient été acquittés par manque de preuves dans les précédents procès étaient injustement acquittés et notamment grâce à l'intervention de détournement d'enquête des morceaux des services de sécurité. Donc, de ce point de vue, la sentence est très claire.
Ingiustamente, molti anni fa, non possono essere più giudicati nuovamente, ma io credo che quello che interessa all'opinione pubblica italiana e la ricostruzione della verità su quei fatti.
Ils ont pas pu être condamnés parce qu'ils avaient été déjà acquittés dans les procès précédents pour manque de preuves, donc ils ne pouvaient pas être condamnés, mais ce qui compte pour ce qui est de l'opinion publique italienne et pour la vérité historique de l'époque, c'est qu'on a pu faire une reconstruction désormais acceptée, certifiée de qu'est-ce qui s'est passé à la Piazza Fontana et de qui ont été les responsables politiques et donc qui ont été aussi les influences politiques sur ses responsables. Donc, de ce point de vue, c'est beaucoup plus important de pouvoir établir ça que de pouvoir condamner des personnes physiques et spécifiques pour avoir matériellement accompli les actes.
Guido Salvini, vous vous êtes intéressé au terrorisme noir et aussi au terrorisme rouge. Est-ce qu'on peut dire que le terrorisme rouge est une réaction au terrorisme noir?
Possiamo dirvi questo, che il terrorismo di sinistra è iniziato negli anni 70. Dopo, in particolare, la strage di Piazza Fontana.
On peut déjà dire que, pour ce qui est de la chronologie, le terrorisme rouge commence après Piazza Fontana, donc dans les années 70.
Sicuramente il terrorismo di sinistra ha avuto più cause, alcune delle quali legate alla retratezza del sistema.
Sûrement le terrorisme d'estrême gauche a eu plusieurs sources e plusieurs causes, en particulier je pense par exemple le fait que le système politique et économique italien était particulièrement arriéré et qui ne offrait pas donc des instruments d'expression autres, mais une des causes est sûrement le fait que il y avait eu toute une série d'attentats d'estrême droite.
Infatti quando molti giovani hanno visto che gli autori delle stragi non venivano subito scoperti e catturati dalle autorità dello Stato.
Beaucoup de jeunes de l'époque, quand ils ont vu que les auteurs de ces attentats, de ce massacre, n'étaient pas poursuivis, n'étaient pas recherchés, n'étaient pas capturés, et au contraire, étaient souvent couverts, protégés et envoyés à l'étranger par des morceaux des appareils d'État, ils ont pensé à tort, mais ils ont pu penser qu'eux aussi avaient le droit de prendre les armes pour se battre contre cet État-là.
C'est così aggravato il terrorismo di estrema sinistra che ha colpito.
Et ça a été comme de l'huile sur le feu du terrorisme rouge, évidemment. Un terrorisme qui a touché beaucoup de représentants de l'État, de policiers, des magistrats, des administrateurs. Donc ce terrorisme avait en partie été donc justifié par l'impunité qui avait été accordée de facto aux auteurs des massacres précédents.
Tu crois que ça a encore du sens aujourd'hui ou bien est-ce que c'est une histoire révolue qui n'a plus rien à voir avec l'époque qu'on vit?
Non, sì, dei legami credo che si possano sempre trovare. Per esempio, ci sono dei parlamentari della destra.
Beh, je crois que des traces aujourd'hui on peut en trouver encore. Il suffit d'aller voir la biographie de certains députés de droite d'aujourd'hui et on va découvrir, si on regarde bien leur biographie, que dans les années 60 ils participaient à des camps d'entraînement militaire qui étaient organisés par l'estrême droite.
Credo che nella storia dei partiti di destra c'è qualcosa con cui dovrebbero fare i conti, insomma.
Je crois que dans l'histoire des partis de droite italiens d'aujourd'hui, il y a quelque chose avec lequel ils devraient faire leur compte.
Cioè, la storia dovrebbe essere scritta tutta.
L'histoire, il faudrait l'écrire complètement.
Forse la nuova Italia dovrebbe conoscere bene la propria storia e avere delle verità.
Peut-être que la nouvelle Italie, il faudrait qu'elle connaisse un peu mieux son propre histoire pour avoir quelques vérités.
E senza la verità credo che si faccia ben poca strada, insomma.
Sans la vérité, je crois qu'on fait très peu de chemin.
Una mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina
mi sono svegliato e ho trovato l'invasore.
Partigiano,
partigiano,
portami via,
portami via.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Se io muoio lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio lassù in montagna, tu mi devi seppellire,
seppellire sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior.
E questo è il fiore del partigiano.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
C'était Des années noires aux années rouges, une émission de Daniel Mermet avec la complicité de Francesco Giorgini. Merci à Paolo Barbieri, Adriano Soffri, Guido Salvini, Giuseppe De Lutis et Giorgio Bocca. Vous retrouvez la suite de cette série demain dès 17h dans la base Si j'y suis. Et puis un petit rappel des livres recommandés, Essai de réponse et Le contraire de 1. L'auteur c'est Eri De Luca, l'éditeur Gallimard. Aujourd'hui, à la technique, il y avait Sandrine Laurent et Philippe Duclos, à la mise en onde, Antoine Chao et Yann Chouquet, assistés de Pascal Pascariello. Le chef du répondeur, c'est Christophe Imbert. Le téléphone du répondeur, le 01 56 40 37 37. Et enfin, la boîte aux lettres de là-bas, si j'y suis, daniel.mermet@radiofrance.com. Frédéric Bonneau, Charivari.